votre rendez-vous avec l'actualité et la rédaction de France Culture. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Nicolas.
Depuis ce matin, les appels internationaux se multiplient pour exhorter le Royaume-Uni à renoncer à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda.
Oui, l'adoption la nuit dernière par le Parlement britannique d'une loi qualifiée d'historique par le Premier ministre Rishi Sunak a aussitôt soulevé un tollé parmi de très nombreuses ONG. On tâchera de savoir quels obstacles juridiques pourraient encore permettre d'éviter le recours à cette loi que beaucoup entrevoient comme une menace significative pour l'état de droit. Hasard diabolique de l'actualité la nuit dernière, ce sont 5 personnes, dont une petite fille, qui ont trouvé la mort dans une tentative de traversée de la Manche, l'occasion de pointer à nouveau l'échec de 20 années de coopération entre Londres et Paris. À suivre également les pluies diluviennes en Chine sur la province la plus peuplée du pays. En France, après que le gouvernement a annoncé qu'il choisirait seul les nouvelles règles d'indemnisation qui devront s'appliquer pour les demandeurs d'emploi avant l'été, on parlera assurance chômage donc avec notre invité aujourd'hui, la sociologue Claire Vivès. Enfin, on vous parlera d'Albert, cette intelligence artificielle censée vous simplifier la vie dans plusieurs domaines de l'action de l'État, en particulier la fiscalité et les services publics. À l'issue d'une interminable bataille entre la Chambre des Lords d'un côté et celle des communes de l'autre, le Parlement britannique a donc fini par approuver la nuit dernière le projet de loi controversé permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent entrer illégalement au Royaume-Uni. Et ce, en échange de sommes, disons, substantielles versées au régime de Paul Kagame, dont le pays est certes considéré comme l'un des plus stables du continent africain, mais dont l'exercice charismatique du pouvoir s'est prolongé d'un autoritarisme de plus en plus flagrant. Alors l'adoption de cette mesure annoncée il y a 2 ans déjà constitue évidemment une victoire pour le Premier ministre Rishi Sunak, d'autant que l'enjeu n'était pas seulement idéologique mais aussi peut-être même surtout électoral. Pourquoi ? Parce que les conservateurs au pouvoir sont donnés aujourd'hui largement perdants des élections législatives attendues d'ici la fin de l'année. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce texte doit donc être approuvé cette semaine par le roi Charles avant d'être promulgué en loi. Rishi Sunak assure que les avions charter ont d'ores et déjà été réservés, que les premiers vols débuteront d'ici à 12 semaines, sauf que sa loi pourrait encore avoir à affronter un certain nombre d'obstacles juridiques.
Ouais, le principal obstacle, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, bras armé juridique du Conseil de l'Europe, une institution clé dans cette affaire. Il réunit 46 États membres, dont le Royaume-Uni, membre fondateur, et il est dépositaire de la Convention européenne des droits de l'homme, texte que la Cour européenne des droits de l'homme est chargée de faire respecter. Les individus peuvent porter plainte devant cette cour quand toutes les voies de recours ont été épuisées dans l'État membre concerné, en l'occurrence le Royaume-Uni, et il va y en avoir des recours, car la loi d'expulsion britannique adoptée la nuit dernière est en contradiction avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, celui sur la torture et les traitements inhumains. Les migrants envoyés au Rwanda risquant l'expulsion vers leur pays d'origine, où ils risquent des persécutions. Alors la justice britannique, la Cour suprême, a mis en garde le gouvernement sur ce point. Et la réponse, eh bien, c'est que le Rwanda est défini comme un pays tiers sûr, un pays qui ne renverra pas les migrants vers leur pays d'origine. Affirmation pour le moins contestable au vu des pratiques autoritaires du président rwandais Paul Kagame. La loi d'expulsion adoptée la nuit dernière va jusqu'à permettre au gouvernement britannique d'outrepasser d'éventuelles injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme si elle veut empêcher des expulsions, comme en juin 2022. Elle avait stoppé in extremis le décollage d'un avion. Eh bien, les autorités britanniques s'autorisent à lui désobéir. C'est une première en Europe, Europe au sens large. Et ce bras de fer à venir sera observé de très près sur le continent où la tendance est à la restriction du droit d'asile.
Merci Louise Baudet. Alors au-delà des questions de morale soulevées par cette loi, ce projet vient surtout acter 2 décennies d'échecs de politiques répressives initiées conjointement par le Royaume-Uni et la France pour empêcher les traversées de la Manche devenues pour partie ce que la Méditerranée est déjà depuis des années, comprenait un tombeau pour migrants à ciel ouvert. Dernière illustration, pas plus tard que la nuit dernière, au moins 5 personnes, dont une enfant de 4 ans, sont morts lors d'une tentative de traversée. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, que sait-on déjà, Mathieu, des circonstances de ce nouveau drame ?
Vers 5h ce matin, la mer était calme, le temps dégagé et la température à peine au-dessus de 0 degré. Selon la préfecture, un canot avec plus de 110 personnes à bord s'est échoué sur un banc de sable au large de la plage de Vimereux, dans le Pas-de-Calais, avant de repartir. C'est un mouvement de foule qui serait à l'origine du naufrage. Une fillette de 4 ans, une femme et 3 hommes ont péri. D'importants moyens ont été dépêchés sur place. 3 hélicoptères ainsi que les SAMU de Boulogne, de Calais, de Dunkerque, sans rescapés, ont pu être être hissée à bord du navire de sauvetage Abeille Normandie, un dispositif maintenu en alerte, car les conditions météo sont telles que d'autres départs sont redoutés dans la journée. Les tentatives de traversée en effet s'intensifient toujours au printemps et depuis quelque temps à bord de petits bateaux de plus en plus surchargés. Les ONG y voient la résultante d'une présence policière de plus en plus forte avec une inflation d'opérations de destruction des abris de fortune que les exilés improvisent sur le littoral.
Et donc je l'évoquais Mathieu, ce nouveau drame signe l'échec de la coopération entre Paris et Londres.
Rappelons d'abord que les traversées ont commencé en 2018 après bien des tentatives via le tunnel sous la Manche, après des années d'efforts dits de sécurisation des abords de ce dernier. Suivront les accords juridiques qui depuis ceux de Sangatte 2000, du Touquet 2003, de Sandhurst en 2018 délèguent aux forces de l'ordre françaises la surveillance de la frontière britannique. En mars 2023, Londres a promis le versement sur 3 ans de 543 millions d'euros à la France pour stopper davantage de bateaux et 700 policiers et gendarmes français sont affectés à cette tâche. Les réunions qui rassemblent forces de l'ordre françaises et officiers britanniques sont d'ailleurs souvent houleuses. Ce rôle de la France, qui en 2022 disait dépenser 250 millions par an à ce chapitre, ce rôle de la France était dénoncé comme bras policier, cette fois de la politique migratoire britannique, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, quelques opérations, des centaines de millions, diplomatiquement des frictions, politiquement des coups de menton et des drames, encore et toujours des drames.
Merci Mathieu Laurent. Témoin depuis hier de son procès au pénal où il est accusé d'avoir corrompu la présidentielle de 2016, Donald Trump observe désormais agacé l'histoire s'écrire dans la salle du tribunal de New York au point que l'ex-président pourrait être condamné dès le deuxième jour d'audience pour outrage et menace contre les jurés.
Y aurait-il un nid d'espions chinois sur le vieux continent ?
Après que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont annoncé hier l'arrestation de 5 personnes soupçonnées d'espionnage au profit de Pékin, ce matin, c'est l'assistant d'un député européen du parti d'extrême droite allemand AfD, tête de liste aux prochaines européennes, qui a été arrêté à son tour, de quoi forcément alimenter donc un contexte de crainte toujours croissante face aux visées de la Chine en Occident. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin, l'homme arrêté partageait son temps, Sébastien, entre ses deux domiciles, Dresde, donc à l'est de l'Allemagne, et puis Bruxelles.
Oui, c'est d'ailleurs, Thomas, depuis Bruxelles, que cet homme de 43 ans notait soigneusement de précieuses informations sur les négociations, sur les décisions du Parlement européen. Il transmettait ensuite ses observations au service de renseignement chinois, visiblement depuis plusieurs mois déjà, peut-être depuis plusieurs années. L'homme en question s'appelle Jian Guo, il est d'origine chinoise, il a aussi la nationalité allemande. Et sur le site internet du Parlement européen, son nom figure dans la rubrique « Assistant accrédité » de Maximilian Kra. Il a rejoint l'équipe de l'eurodéputé d'extrême droite de l'AFD après son élection en 2019 et il a ensuite accompagné ce député lors d'un voyage en Chine. C'est à cette époque qu'il aurait commencé à travailler comme agent de renseignement avec une double mission. D'abord, collecter des informations depuis le Parlement européen, mais aussi infiltrer des groupes d'opposants chinois établis en Allemagne pour collecter des renseignements sur le profil des dissidents, informations qu'il faisait ensuite passer à ses commanditaires. Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur, qui a mis en garde à plusieurs reprises contre l'intensification de l'espionnage par la Chine, a qualifié cette affaire d'extrêmement grave. De son côté, Pékin conteste les faits et dénonce une calomnie destinée, je cite, à détruire l'atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Et puis je précise qu'après cette nouvelle arrestation, le groupe des Verts au Parlement européen a réclamé dès ce matin une enquête rapide sur les liens entre les eurodéputés et des puissances étrangères.
La Chine, justement placée en alerte rouge en raison de pluies diluviennes meurtrières.
Oui, l'alerte a été lancée ce matin dans le Guangdong, la province la plus peuplée du pays, emblématique par ailleurs de la puissance manufacturière du géant asiatique avec ses dizaines de milliers d'usines. Alors depuis jeudi dernier, la zone est frappée par des pluies torrentielles. Ces intempéries ont déjà fait au moins 4 morts et entraîné des dizaines de milliers d'évacuations. Et ces précipitations ont fait gonfler considérablement les cours d'eau au point que les autorités redoutent à présent les inondations du siècle. Correspondance dans la région signée Florence de Changy.
Les services météorologiques de la mégapole de Shenzhen, qui compte près de 18 millions d'habitants, ont déclenché cette alerte rouge, le plus haut degré d'urgence, en fin de matinée, en raison d'un risque de crue jugé très élevé, provoqué par des pluies diluviennes qui sont tombées pendant quelques heures sans interruption. Mais cela fait déjà plusieurs jours que des pluies torrentielles parfois accompagnées de très puissantes bourrasques de vent, s'abattent sur cette province, la plus peuplée de Chine, et où se concentrent des dizaines de milliers d'usines, notamment celles liées aux nouvelles technologies. Plusieurs villes, dont Canton, sont particulièrement touchées. L'un des fleuves qui traverse la province est à son plus haut niveau depuis 50 ans. Des images circulant en ligne montrent un pont cédant sous le poids de l'eau. Certains villages ont été submergés par des coulées de boue et coupés du reste du monde pendant 24 heures. Près de 100 000 personnes ont dû être déplacées, a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua. Dimanche, les autorités redoutaient déjà que cet épisode climatique extrême provoque les inondations du siècle. Ce déluge a déjà causé la mort de 4 personnes, mais ces mauvaises conditions devraient perdurer encore plusieurs jours.
Comment lutter contre la prolifération de ces déchets qui inondent la nature du fond des océans au sommet des montagnes avec un demi-milliard de tonnes par an? La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans et si rien n'est fait, elle pourrait encore tripler d'ici à 2060, auquel cas le poids des plastiques dans les océans deviendrait plus lourd que celui des poissons. Alors aujourd'hui à Ottawa s'ouvrent des négociations internationales dans l'espoir de parvenir enfin à un traité mondial contre ce véritable fléau. Problème, si les négociateurs se rejoignent en effet sur la nécessité de trouver un accord, ils divergent en revanche sur le fond. Quand les uns plaident pour une forte réduction de la production plastique, les autres militent, eux, en faveur du recyclage.
Vous écoutez le journal de Thomas Cluzel sur France Culture, il est 12h41.
La généralisation de l'IA au service des usagers. Ce matin, Gabriel Attal a officialisé plusieurs nouveautés afin de simplifier certaines démarches administratives. Baptisée Albert, cette intelligence artificielle 100% française devra permettre aux agents des services publics de répondre plus facilement et surtout plus rapidement aux millions de questions posées en ligne chaque année par les contribuables. Et puis toujours dans le cadre de cette simplification administrative, le Premier ministre en déplacement ce matin à Sceaux, dans la proche banlieue parisienne, a également annoncé l'ouverture d'ici 2027 de 300 nouvelles maisons France Service, ces structures qui regroupent, vous le savez, en un même lieu plusieurs services publics. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors à l'occasion de ce déplacement, le chef du gouvernement entend sans doute faire ainsi la démonstration qu'il est toujours dans l'action, mais mieux encore, Stéphane, qu'il s'attache aussi à mettre en œuvre une politique fidèle au fond à la promesse originelle du macronisme, la fameuse disruption censée nous conduire loin de l'ancien monde.
Oui, le Premier ministre veut montrer qu'il est aux commandes, qu'il mette en œuvre la politique décidée par le président de la République. Mais en termes d'annonces, concrètement, on est assez loin d'une révolution. Il y aura 300 nouvelles maisons France Service ouvertes d'ici 2026, a dit le Premier ministre. Rien de neuf. Il y a déjà 2700 maisons France Service sur l'ensemble du territoire français. Par conséquent, c'est le déploiement de ce réseau dédié aux services publics qui se poursuit. Par ailleurs, il a évoqué l'automatisation du versement des bourses scolaires. C'est une simplification, effectivement, mais ça ne changera pas fondamentalement la vie des étudiants boursiers. Et puis, la généralisation, vous l'avez dit, de l'utilisation d'une intelligence artificielle baptisée Albert dans l'administration. Ça pourrait simplifier la vie des agents, très bien. Peut-être un peu celle des usagers, on verra à l'usage. Ce qu'a annoncé Gabriel Attal ressemble donc plus à un point d'étape qu'à un véritable programme de simplification de l'action publique. Au-delà de ces annonces, il faut donc prendre en considération qu'on est en pleine campagne électorale, à moins de 50 jours des élections européennes, que la liste du camp présidentiel est pour le moment largement distancée par le Rassemblement national dans les intentions de vote. Et le pouvoir exécutif s'interroge. Comment réduire cet écart? Tout est pensé à l'Élysée comme à Matignon, tout est calculé, réfléchi, décidé à l'aune de cette considération. Et le déplacement, comme les annonces de Gabriel Attal ce matin, ne font pas exception. Pour le Premier ministre, il s'agit de montrer qu'il est fidèle au mantra et aux promesses du macronisme d'origine, qu'il continue à faire ce qu'Emmanuel Macron avait engagé en 2017, à savoir transformer, adapter la société française au nouveau monde qui vient. L'idée est de montrer que les promesses sont tenues ou sont en train d'être tenues et à travers ça de tenter de mobiliser les électeurs qui avaient voté pour l'actuel président en 2017, en 2019 puis en 2022 face à Marine Le Pen et au Rassemblement National.
Merci Stéphane Robert.
La fin du suspense sur l'assurance chômage.
Oui, près de deux semaines après l'échec des négociations entre le patronat et les syndicats, le gouvernement a décidé de reprendre la main en clair. Il fixera lui-même de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi, a priori plus restrictives à partir du 1er juillet prochain. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Claire Vivès, sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail. Bonjour madame.
Bonjour.
avant d'évoquer quelles pourraient être donc les différentes pistes privilégiées sur la méthode. Peut-être tout d'abord, est-ce que vous êtes surprise par le scénario de cette reprise totale du contrôle par le gouvernement ? Ce matin, chez nos confrères de France Info, François Omeril, le président général de la CFE-CGC, parle d'un scénario cousu de fil blanc depuis le début.
Oui, effectivement, c'est pas très surprenant et en plus c'est pas très nouveau. C'est-à-dire que on est dans la continuité de ce qui se passe depuis 2017 avec l'exécutif qui prend de plus en plus de pouvoir sur la question de l'indemnisation du chômage par rapport au pouvoir qui est habituellement dévolu aux organisations syndicales de salariés et au patronat.
Pour l'instant, on ne sait pas donc quelles seront les modalités de ce durcissement de l'assurance chômage, mais plusieurs pistes, évidemment, sont déjà sur la table pour modifier donc les critères d'éligibilité. La première d'entre elles reviendrait à rallonger la durée de travail demandée aux individus donc pour leur ouvrir des droits au chômage. Est-ce que ce levier est juste selon vous et est-il efficace ?
Alors, ce levier, c'est un levier qui a déjà été utilisé, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois pour avoir droit à l'assurance chômage. Rappelons que jusqu'à la réforme de 2019-2021, c'était 4 mois dans les 28 derniers mois. Et en fait, c'est un levier dont les effets sont très connus et très, j'allais dire, faciles à anticiper. Les personnes qui vont être prioritairement touchées, ça va être notamment particulièrement les jeunes et plus généralement les personnes précaires. Donc, c'est-à-dire les personnes qui ont des contrats de courte durée, c'est celles qui de toute façon sont le plus souvent au chômage, qui vont avoir encore plus de difficultés à ouvrir des droits.
L'autre option qui, un temps, a été évoquée par le gouvernement, c'est de limiter donc la durée d'indemnisation des personnes privées d'emploi. Quelles seraient à ce moment-là les personnes prioritairement affectées par cette mesure ?
Alors, sur la question de la réduction de la durée, les premiers touchés, surtout que le gouvernement envisage de les toucher particulièrement, ce seraient les seniors. C'est parce que on sait que aujourd'hui, c'est pas nouveau, les seniors sont les personnes qui mettent le plus de temps à retrouver un emploi. Elles ont pour cela, en reconnaissance de ces difficultés particulières, des dispositions spécifiques. Elles ont des droits plus longs et le gouvernement envisage de revenir là aussi sur ces droits plus longs, alors même que les différentes pistes qui avaient été évoquées pour justement favoriser l'emploi des seniors dans d'autres négociations n'ont pas été retenues d'une part, et d'autre part il y a eu évidemment la réforme des retraites qui fait que les seniors doivent en plus travailler plus longtemps avec des difficultés accrues pour retourner à l'emploi.
Aujourd'hui, le gouvernement justifie donc la nécessité de cette réforme en expliquant, je résume, vouloir atteindre le plein emploi. Quels sont les effets du durcissement de l'assurance chômage sur le taux d'emploi ?
Un des éléments qui paraît problématique dans ce calendrier, c'est que l'objectif de plein emploi pour justifier des réformes d'assurance chômage, il est mobilisé depuis 2017. Mais en fait, le gouvernement n'attend même pas d'avoir les résultats des évaluations qu'il a lui-même commandées. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, il y a 5 équipes différentes dont je fais partie qui sont en train d'évaluer la réforme de 2019-2021 et les résultats de cette évaluation sont annoncés pour la fin de l'année. C'est pas lié à un problème de conduite de l'évaluation, c'est juste que les réformes d'assurance chômage, elles mettent longtemps à entrer en vigueur, enfin je veux dire à s'appliquer aux personnes, et donc si on veut voir des effets sur les comportements, puisque c'est ce que postule le gouvernement, qu'il va y avoir des effets sur les demandeurs d'emploi, il faut du temps, il faut du recul. Et donc là, le gouvernement lance, c'est la deuxième réforme, depuis la réforme que nous, on est en train d'évaluer, lance déjà la deuxième réforme, alors même que les effets attendus sur le retour à l'emploi n'ont pas été démontrés.
Gabriel Attal estime que le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité. Est-ce que cette formule ne nous renseigne pas aussi, surtout finalement, sur le bas niveau de rémunération du travail aujourd'hui ?
Déjà, le premier élément, c'est que aujourd'hui, le travail paye toujours plus que l'inactivité, parce que le principe de l'assurance chômage, c'est d'appliquer un taux de remplacement, en gros de vous donner une partie du revenu que vous perceviez quand vous étiez quand vous étiez au travail. Et c'est au maximum 75%. Donc, de toute façon, déjà, il faut le rappeler, le travail paye plus que l'inactivité.
Et on terminera par ces mots. Merci beaucoup, Claire Vivès, donc sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore perturbé sur la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais, ainsi que le long des frontières de l'Est. Partout ailleurs, les éclaircies devraient s'imposer. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.
Demandez-moi.